Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what, I like that idea.
Ce podcast est rendu possible par Stellar, un collectif de top CPO qui ont participé au succès de startups comme Zenly, Sunday, Spendesk ou Blablacar.
I'm so happy.
J'ai cofondé ce collectif avec une mission, aider les dirigeants d'entreprises tech à créer les produits qui dominent leurs industries.
Oh, yes, yes.
Retard sur la roadmap, équipe désalignée, produits lents à décoller, ces problèmes, nos CPO les connaissent par cœur. Et ils débarquent à tes côtés pour les résoudre dans des formats rapides, actionnables et clés en main.
Well, that's excellent.
Si tu es dirigeant ou CPO et que tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a très certainement des choses à se dire. On se retrouve sur wearestellar.io ou via le lien en description d'épisode.
Oh, yes, yes.
Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Lebas sur Clé de voûte. Stéphane est un des piliers de la scène produit française. Il démarre sa carrière chez SFR, où il évolue sur différents postes produits au moment de l'explosion des services sur fixe et mobile. En 2013, il a l'opportunité d'entreprendre et lance sa première start-up spécialisée dans l'analyse de données des opérateurs mobiles qu'il revend un an plus tard. Suite à cette aventure, Stéphane va enchaîner les postes de product leader dans des boîtes françaises renommées. Mythic, Betclic, Malt, Care et depuis tout récemment, Adeo. Stéphane vient sur Clé de voûte creuser son parcours et ses challenges vécus pendant ses 20 années de produits. En deuxième partie d'épisode, il nous explique comment scaler un produit dans un contexte multi-pays avant de nous livrer sa méthodologie pour faire évoluer le pricing d'un produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Hello Stéphane, comment ça va ?
Très bien et toi ?
Ça va, super. Ravi de t'accueillir sur Clé de voûte, bienvenue.
Bah écoute, merci beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on avait prévu de le faire, donc je suis ravi de pouvoir enfin partager ce moment avec toi.
Ouais, welcome, écoute, je t'en prie. Stéphane, toi, tu es l'actuel CPO de Adeo, c'est bien ça ?
Alors, pas tout à fait CPO, hein. Je suis en fait responsable produit sur une des plateformes, donc une des plus grosses plateformes, qui est la plateforme Customer Commerce, qui gère tous les sujets liés aux outils, aux produits, liés à la connaissance client, à la vente, que ce soit en ligne ou en magasin.
Trop bien, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Alors, toi, tu as un parcours qui est super intéressant, qui est assez vaste dans le produit. Tu as commencé, je ne sais pas quand exactement, quelle année tu commences vraiment à goûter un petit peu au produit ou ce qu'on peut appeler le produit ?
On peut dire que c'est mon arrivée chez SFR, donc c'est autour de 2002.
Ouais, 2002, tu commences chez SFR, tu es passé entre autres par des boîtes comme Betclic, Mythic, Care, Malt, Adeo, je pense que j'en oublie.
À peu près ça.
À peu près ça. Et donc ce qu'on voit dans les boîtes que je viens de citer et qu'on a également cité en introduction, c'est que tu es passé par des entreprises de tailles différentes, sans doute avec des stades d'avancement ou de maturité différents. Typiquement, Adeo, je crois que c'est une boîte qui a été créée de mémoire dans les années 50, si je ne me gourre pas, si on prend le groupe en entier, de mémoire.
Ouais, je n'ai pas tout l'historique, mais effectivement, l'origine de l'actionnaire, la famille Muliez, ouais, c'était plutôt dans ces années-là. Ouais.
Et à côté, tu as des boîtes comme Malt qui sont créées beaucoup plus récemment. Alors, on ne va pas refaire tout le parcours parce que je pense que ça risque d'être très long et qu'il y a plein de choses à dire. Je vais essayer avec toi de revenir peut-être sur des moments qui t'ont particulièrement marqué ou que tu as envie de mettre en avant ici. Justement, sur ces sujets de taille, peut-être que j'ai une première question à te poser. Est-ce que tu avais décidé de ce parcours initialement en te disant « il faut que je passe par telle boîte, puis telle boîte, puis telle boîte » ou est-ce que c'est venu un peu naturellement et du coup, tu as remarqué qu'il y avait une typologie de boîte qui t'intéressait ou de problématique que tu rencontrais dans les boîtes qui t'intéressaient ?
En fait, moi j'ai commencé à l'origine dans le conseil. Et une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le conseil, c'est que justement, j'allais passer de mission en mission et voir et des contextes et des tailles, des types de clients différents. Donc moi, ça a toujours été mon driver, c'est-à-dire pas rester effectivement 20 ans dans la même société. Alors j'ai passé 10 ans chez SFR, mais en fait, si tu regardes précisément ce que j'ai fait chez SFR, tous les 2 ans, je changeais de poste.
Tu bougeais, ouais.
Donc c'est ça aussi l'opportunité des grands groupes, hein. C'est aussi de pouvoir évoluer et changer de poste au sein des grands groupes. Donc moi, mon driver, ça a toujours été de découvrir des sociétés de tailles différentes, de maturité différentes, de types différents, avec des types de management différents, des fondateurs, des CEO qui ont été mis là par des fonds, des domaines différents. J'ai jamais fait 2 fois le même type de business. Donc souvent, j'étais appelé par des concurrents qui voulaient me débaucher, mais j'ai toujours refusé d'aller chez un concurrent. Parce qu'effectivement, intellectuellement, j'ai toujours privilégié la découverte, la découverte d'un nouveau business et puis aussi la découverte d'un nouveau réseau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu changes de société ou que tu évolues dans un poste, tu remets à zéro ton réseau relationnel. Et ça, c'est aussi ça qui t'enrichit au fil des années.
Il n'y a pas une typologie de produit que tu as voulu suivre à un moment, typiquement, je veux faire que des marketplaces. Tu vois, on pense à Malte notamment. Si, il y a eu des expertises que tu as un petit peu éprouvées.
Ouais, si un des drivers, c'est quand même de faire du B2C. Enfin, ouais. En fait, c'est mon vrai driver, c'est de travailler sur des produits qui ont un vrai impact sur des centaines de milliers, voire des millions de personnes.
Voilà. Ouais.
Donc ça, j'ai fait de temps en temps du B2B, notamment quand j'ai créé ma boîte en 2013 pendant un an. Là, pour le coup, c'était du pur B2B. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté. C'est que j'ai été contacté par Mythique à l'époque. Donc Mythique, c'est 8 millions de nouveaux membres. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était 8 millions de nouveaux membres tous les ans en Europe. Donc j'étais sûr que là, j'allais avoir un vrai impact sur la vie des gens, quoi. Donc ouais, ça, c'est toujours bien. Été mon driver du B2C. Privilégié du B2C et plutôt des services qui avaient de l'impact sur la vie des gens.
C'est vrai que tu le retrouves dans toutes les boîtes que j'ai évoquées tout à l'heure, je crois quasiment. Hein. Betclic, c'est le cas aussi, non ?
Ouais, très grand public.
Malte, peut-être des chiffres un peu plus petits, mais c'est quand même, mine de rien, même si j'imagine que vous mettiez en avant des gens qui sont des freelances avec des business centrés sur eux, tu as quand même une logique et une philosophie qui est très B2C dans l'histoire, non, quand même ?
Ouais, et puis des freelances, en fait, c'est des gens comme toi et moi. Il y en a de nature très, très différente. Donc, tu n'as pas une typologie ou un persona spécifique.
Ouais.
Et à date, ils sont... déjà, à l'époque, on était autour de 200 000 freelances. Donc là, maintenant, avec l'expansion internationale qui s'est poursuivie, voilà, je pense qu'ils doivent être plutôt à 300 000 freelances dans la communauté.
C'est énorme. Et est-ce qu'il y a une expérience parmi celles citées, ou celles que je n'aurais pas citées, qui t'a... particulièrement, tu vois, donner du fil à retordre, que tu as trouvé sportive, ça veut pas dire qu'elle t'a pas appris, au contraire, généralement d'ailleurs, quand c'est sport, c'est là qu'on apprend. Il y en a une qui te vient à l'esprit comme ça ?
Sur vraiment le côté challenging où j'ai atteint mes limites, c'est vraiment la phase où j'ai décidé d'être entrepreneur et j'ai été entrepreneur pendant un an. Donc un an, c'est très court et en même temps, ça m'a paru très long.
Ah ouais ?
Quand tu dois avoir affaire en parallèle l'administratif, le commercial, le business development. Et puis à l'époque, on était deux. Hein. Je me suis lancé avec quelqu'un qui était de mon équipe chez SFR qui était devenu mon CTO. Et donc, moi, je me suis remis à faire de l'analyse de données, hein, parce que ce qu'on faisait, c'était de l'analyse de données pour les opérateurs mobiles et du géomarketing. Donc, moi, j'ai appris sur le tas à faire de la data et à l'époque du big data. On commençait à parler de big data à l'époque. J'ai recommencé à faire du développement. Donc, en fait, j'ai fait du développement front. On faisait des interfaces de restitution pour nos utilisateurs.
Tu développes à la base, toi, au début de ta carrière ? Tu savais déjà coder ?
Ouais, j'avais fait 6 mois de code tout au début de ma carrière. J'ai bossé chez Andersen Consulting, donc qui est devenu Accenture. Et donc, dans le parcours classique, quand tu es ingénieur, tu fais. Donc, j'avais fait 6 mois de dev. Après, j'avais fait quelques mois en encadré des devs. Après, j'étais parti plutôt côté business consulting, comme on dit. Mais, mais j'avais un historique où j'avais fait du développement. Et j'ai toujours considéré que le métier de développeur, c'est un métier noble parce que c'est un métier créatif. Les gens imaginent que c'est pas très, tu vois, que c'est un peu basique.
Très ingé technique, voilà. Très carré et tout.
Alors qu'en fait, pour arriver au résultat, t'as plein de façons différentes de le faire. Donc c'est un des métiers les plus créatifs, tu vois, autant qu'un product designer.
Ok, hyper intéressant. C'est marrant que tu vois comme ça. Et donc tu t'es remis au code, tu t'es remis à coder pendant ton expérience entrepreneuriale.
Exactement. Et donc je faisais un petit peu de tout. Donc c'était vraiment un rythme infernal. On bossait beaucoup avec l'étranger. Tu vois, on a fait des missions pour l'Irak, pour l'Afghanistan, pour le Mali. Donc en plus des pays un peu chauds, sur des fuseaux horaires différents. Il y a des fois pour tenir les délais. On finissait à 2h du matin, on dormait 3h, hop, on se réveillait, on avait une conf call à 5h du mat avec l'Afghanistan. Enfin, c'était vraiment un rythme de fou. Et puis t'as la solitude du fondateur où en fait tout repose sur toi, quoi. Si tu sens que si tu faillis à un moment donné, tu vas planter la boîte.
Et est-ce que, alors, si on sort de cette période d'entrepreneur, dans toutes tes expériences plutôt au produit, il y en a une que tu as trouvé que tu as considéré être un tremplin, par exemple, sur une compétence particulière, tu t'es dit « Waouh, là, j'ai vraiment appris. » Tu vois, ça s'est vraiment développé très fort chez moi, il y a eu des déclics.
En fait, si je remonte vraiment à l'origine et au moment où j'ai vraiment commencé à faire du produit tel qu'on l'entend actuellement, c'est-à-dire tu as avec une équipe de product manager, une équipe de designers qui font effectivement la partie interface, des gens qui font le product marketing, le go-to-market, et bosser en agile, en fait, ça remonte vraiment aux années... 2007-2008. Donc, en fait, au moment où les smartphones arrivent sur le marché, si tu te souviens, en fait, Orange a l'exclusivité de l'iPhone pendant un an.
Je me souviens.
Mais l'année d'après, SFR récupère l'iPhone. Le premier Android sort Et donc là, on demande de créer une équipe qui est dédiée à développer toutes les applications mobiles SFR. Et la chance qu'on a à l'époque, c'est que il y a une société qui a été rachetée par SFR, qui est basée à Grenoble, avec des ingénieurs qui font du développement embarqué. Et donc on se met à développer toutes les applis avec ces gens-là. Donc plutôt que de passer par des agences, à l'époque tout le monde passe par des agences parce que t'as pas les compétences en interne. Donc nous on a des compétences en interne qui sont pas dans les gros mammouths, la direction du réseau, la direction du SI. Donc c'est une équipe un peu agile. Et donc on commence à bosser en agile et en remote avec ces gens-là, avec une vraie organisation produit by the book telle que tu peux l'avoir actuellement. Donc moi c'est vraiment là. Et pourquoi, pour l'anecdote, hein, pourquoi à l'époque on m'a confié cette mission-là, j'ai essayé vraiment de trouver le moment, le point de bascule. En fait ça vient d'un projet que j'ai mené quelques mois auparavant avec Arcos. Donc, je sais pas si enfin, les plus anciens se rappelleront d'Arcos. Arcos, c'est quand même eux qui ont inventé le baladeur numérique. Ouais. Un an et demi avant l'iPod. Ouais. C'est eux qui ont, avec nous, du coup, inventé la première tablette connectée, Arcos 3G, qu'on a lancée en 2008 chez SFR, un an et demi avant l'iPad. Et donc c'est parce que j'avais mené ces projets-là avec Arcos, avec un gros focus sur l'interface. Donc c'était les premiers projets où en fait nous en tant que SFR on contrôlait l'interface du device et on contrôlait la distribution de nos services sur l'interface, sur l'écran d'accueil. C'est parce que j'avais compris entre guillemets l'importance de contrôler la user experience qu'on m'a confié la mission de lancer ces applis. Et ce qui est intéressant avec l'histoire de Arcos versus Apple, c'est qu'Arcos c'était une boîte d'ingénieurs. Donc en fait ils étaient hyper concentré sur les caractéristiques techniques, donc genre la capacité de stockage, et pas du tout sur le design ou le marketing.
C'est un cas d'école, Arcos. Hein.
Exactement, c'est un cas d'école. Et tu vois, c'est le cas d'école qu'on cite souvent, sans parler d'Arcos, mais en parlant d'Apple, en disant l'iPod, ils sont pas venus en disant vous avez 6 gigas ou 500 mégas de stockage.
Ils sont venus en disant t'as mis une musique dans ta poche. Quoi.
Exactement. et c'était vraiment, le contraste était vraiment saisissant entre la culture Arcos franco-française ingénieur et ce qui venait des US. Quoi.
Alors que de mémoire, on disait, ça c'est un cas d'école, vraiment, moi je me rappelle l'avoir vu à l'école pour te dire, ouais. On disait qu'Arcos techniquement était au-dessus, aussi bien d'un point de vue son de mémoire que de capacité, si je me souviens bien. À nouveau, là je parle d'il y a 8-9 ans déjà.
Il n'y a pas photo, ils étaient non seulement en avance techniquement, ils étaient en avance en termes de time to market, hein, parce qu'ils sont arrivés systématiquement un an et demi avant. Mais à l'époque, moi je me rappelle, en 2008, ils n'avaient qu'un seul designer. Enfin, tu vois, c'était de la folie, quoi. Et je me souviens très bien que un des trucs qui m'avait marqué, parce que j'avais participé aussi à un projet avec Vodafone de lancement d'un concurrent de l'iPhone avec Samsung. Donc c'était un projet gigantesque avec tous les pays Vodafone. Et en fait, ils avaient il y a un truc qu'ils avaient manqué. C'était l'importance de quelques détails, typiquement de l'épaisseur des devices. En fait, je me souviens très bien, moi j'avais tous les terminaux connectés à l'époque qui passaient entre mes mains. Ils avaient tous une épaisseur qui était, quelques centimètres. Et l'iPhone et l'iPad étaient beaucoup plus fins. Et en fait, quand tu mettais dans ta poche un iPhone ou un device sorti par Samsung, tu sentais vraiment la différence. Donc, tu vois, ne serait-ce que sur le form factor, en fait, il y avait un impact. Et puis ensuite, ils essayaient de copier une innovation sur la user experience. Et donc, ils avaient sorti un concept qui était une navigation dans tes contacts en trois dimensions. Tu avais les contacts que tu appelais souvent, qui étaient en premier niveau. Et puis tu voyais avec un effet de perspective les contacts les plus anciens au fond, et puis en slidant en fait tu te baladais en profondeur. Sauf qu'en fait, donc c'était hyper sexy, tu vois, ça avait dû être vendu aux execs de Vodafone en mode on a un super concept, mais en fait personne ne pense en 3D. Les gens ils veulent juste une liste toute simple de tes contacts. Tu tries par ordre alphabétique. Donc des fois des bonnes idées UX, des espèces de fausses bonnes idées ou fausses bonnes innovations, en fait se retrouvent être des catastrophes, quoi.
Et toi tu les as vues en live du coup il y a quelques années, quoi.
En plus j'avais anticipé que ça allait pas forcément marcher.
Tu le voyais, ouais.
Et c'était vraiment l'époque où chez un opérateur qui avait pourtant des ambitions hyper fortes de contrôle de la chaîne de valeur, de contrôle de l'expérience de ses produits, etc. Assez rapidement, quand Apple est arrivé, on s'est rendu compte que c'était perdu, quoi. C'était fini, ouais. Que sur tous les sujets, sur le paiement mobile, sur la visio. Tu vois, à l'époque, les opérateurs, ils ont lancé la visio. Bon, maintenant, tu n'en parles plus. Maintenant, c'est FaceTime, quoi, tu vois. Tu as eu WhatsApp, iMessage, alors que les opérateurs avaient lancé RCS, qui était la même techno, mais entre opérateurs. Donc, sur tous ces sujets-là, en fait, il y a eu une incapacité des opérateurs à se mettre d'accord et à contrôler la chaîne de valeur et à contrôler l'expérience.
Hyper intéressant. Combien de temps t'as fait, tu m'as dit, chez SFR, une dizaine d'années?
Une dizaine d'années, ok. Et j'ai fait du fixe, du mobile, j'ai fait de l'ADSL, même du hardware. Hein. On avait fait designer une box par Oraito. C'était une des premières boxes où tu n'avais pas un affichage digital compliqué, mais on avait juste des icônes qui clignotaient rouge, vert, jaune, en fonction de l'état de la connexion. Donc on avait déjà à l'époque, c'est ça aussi que j'avais essayé de vendre, un vrai focus sur l'expérience client. Tu vois, essayer de donner une expérience qui était la plus simple, la plus plug and play possible.
Tu n'avais pas envie de refaire du hardware? Parce que là, tu parles quand même pas mal de hardware, mine de rien. Même si tu n'agissais pas directement dessus, j'ai l'impression que tu avais quand même ton mot à dire dans le process sur les nouveaux produits sortants sur du hardware.
Non, parce que assez rapidement, on a compris qu'on n'avait pas ni la force de frappe, ni la capacité d'influence pour gagner cette bataille-là.
Ok, hyper clair. Ce qui est intéressant de ton parcours, c'est que toi, ça fait quand même donc, du coup, pas mal d'années, quasiment plus de 20 ans si je comprends bien, que tu touches au produit. Tu as parlé là que quand tu commences chez SFR, tu commences à comprendre déjà les mécanismes d'influence, etc. Tu commences à voir des orgas qui opèrent de manière un petit peu différente de ce qui a pu se faire, je pense, par le passé. Comment tu vois, toi, ce qui se passe aujourd'hui sur l'écosystème produit, maintenant que ça a mûri, qu'il y a eu de la littérature, des gens qui commencent à partager un peu ce qu'ils font en public. Qu'est-ce que tu penses, tu vois, de peut-être des PM juniors je sais pas, peut-être que si t'as un constat à faire, ce serait quoi ravi d'avoir des constats qui soient positifs ou négatifs. Hein.
En fait, moi, systématiquement, dans toutes les sociétés dans lesquelles je suis passé, l'orga que j'ai trouvé ou que j'ai mis en place à l'origine, on l'a changé, tu vois. Au bout d'un an, deux ans, trois ans, on a complètement changé l'orga parce que la maturité produit avait changé. Donc, moi, je ne suis pas du tout dogmatique. Je ne suis pas anti-framework, mais ouais, globalement, je pense qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est s'adapter au mieux à ton niveau de maturité, la taille de tes équipes, le niveau de maturité de ton business aussi, hein, pas uniquement de tes équipes produits. Donc tu vois, typiquement, quand j'ai monté cette équipe chez SFR, on était organisé par application. Donc vraiment, il y a quelqu'un, un product manager qui était sur la mobile TV, un autre sur le mail, un autre sur le self-care. Et puis, j'avais commencé à faire une organisation matricielle où ils étaient à la fois responsables d'une appli et d'un OS. Quand je suis arrivé chez Mythique, on a fait une grande refonte, on a refondu l'expérience client et la stack technique sur, pareil, les applis, puis le mobile web, puis le desktop. Donc au début, on était organisé par plateforme. Puis une fois que tu avais refondu toutes les plateformes, tous tes nouveaux projets, c'était des projets transverses. Donc là, on a pivoté et tout d'un coup, on est passé en feature team avec quelqu'un qui s'occupe du paiement, registration, moteur de recherche. Et pour faire cette transition, pareil, pendant six mois, les product managers avaient une double responsabilité et plateforme et fonctionnelle. Donc systématiquement, j'ai fait ce genre de pivot. Plus récemment, j'ai fait des pivots pour passer en impact team, donc notamment chez Malte, puis chez Care. Donc je suis plutôt partisan d'adapter l'organisation et puis ton framework à tes besoins et à ton niveau de maturité produit. Donc moi, mon premier conseil, ça serait de pas être dogmatique, en fait. De pas s'attacher à un framework, une approche. Je prends un autre exemple sur la partie discovery, par exemple. Moi, j'ai invité, quand j'étais chez Care, Rémi, pour qu'il vienne nous parler de son bouquin Discovery Discipline.
Rémi Guillaume, l'ancien CPO de BlaBlaCar.
Exact. Et donc, à l'issue de cette présentation, j'ai fait venir tous les product managers, d'ailleurs, du groupe, donc de toute l'Europe, du groupe Elsiro, donc pas uniquement Care. Et à l'issue, il y a des équipes qui ont testé cette méthode-là, puis il y en a d'autres qui sont restées sur d'autres approches. Et moi, ça m'allait très bien. Le principal, c'est que le message était passé, quoi. Quelle que soit ensuite la méthode que tu utilises, on va dire, opérationnellement.
Donc, ce que tu vas me dire là, dans cette réponse, c'est qu'il y a peut-être des PM, en tout cas un peu juniors, les gens qui découvrent le métier aujourd'hui ont tendance à beaucoup se rattacher à de nouvelles choses qu'ils voient passer dans la littérature. Mais qu'il ne faut pas s'attacher à ces nouvelles choses, il faut venir juste piquer quelques éléments, s'en inspirer et puis se faire son propre avis, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, surtout, il ne faut pas considérer qu'on fait mal du produit si on n'applique pas les méthodes au playbook.
C'était ça le message.
En fait, je pense qu'il y a un grand décalage entre les attentes et la réalité. On pourrait avoir ce constat sur plein de sujets. Tu vois, si je reprends le sujet des impact teams, qui est un sujet qui a été très à la mode, et que moi je trouve que c'est un truc hyper efficace, en fait, ça crée énormément de frustration pour les product managers qui sont à la tête d'une impact team. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu leur expliques qu'ils ont une matrix, une North Star, et qui vont être hyper libres pour trouver les projets, les features qui vont permettre d'atteindre cet objectif qui a été défini au départ. Donc tu leur donnes un sentiment, si tu lis la littérature, hein, de totale liberté. En gros, ils sont CEO de leur produit, ils ont une matrix et puis ils font ce qu'ils veulent. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu vas avoir peut-être 50% de ta roadmap, dans le meilleur des cas, où tu vas vraiment pouvoir faire ce travail de refaire une discovery complète, d'identifier tous les leviers que tu as et de choisir un peu tes sujets. Et puis, tu as 50% des projets qui vont tomber en top-down, ou qui vont être du réglementaire, ou qui vont être imposés. Donc ça crée déjà un premier niveau de frustration. Et puis, l'autre inconvénient de cette organisation, c'est que quand tu refais une discovery où tu reposes tout à plat, et donc tu dis à tes stakeholders, on doit faire évoluer, je sais pas, la rétention, donc on va prendre plein d'hypothèses pour voir qu'est-ce qui peut améliorer la rétention utilisateur. 50% des insights vont être nouveaux, mais 50% des insights vont être des trucs déjà connus. Donc là, tu vas expliquer à tes stakeholders, sur lequel, qui ont toujours des attentes fortes vis-à-vis de toi, que tu as passé 50% de ton temps à redécouvrir des trucs que tout le monde connaissait. Bon, là, pareil, immense frustration de la part des stakeholders. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai partagé avec d'autres leaders produits. Et on avait un peu tous la même conclusion. Donc théoriquement, voilà, l'approche OKR plus Impact Team, c'est une approche qui est super. Maintenant, si tu t'attends à ce que ça fonctionne by the book, en fait, tout le monde va être déçu.
Donc ça, t'as pris un exemple comme ça, mais ça veut dire que peut-être il y a un écart entre... Tu sais, les gens qui lancent de nouvelles approches, il y a un peu ce sujet marketing, forcément, ils ont envie que la sauce qu'ils viennent de créer soit vendue, entre guillemets, tu vois. Donc, tu as peut-être un peu cet écart de simplification sur le lancement d'une nouvelle méthode et de la réalité de l'introduction de cette méthode dans une boîte, ce qui crée un peu de frustration parce qu'il y a des gens qui veulent appliquer, tu vois, vraiment exactement telle que la méthode a été marketée. Alors que dans les faits, peut-être que tu peux appliquer, je sais pas, 10 ou 20% de ce qui se passe théoriquement dans la méthode, quoi.
Mais du coup, tu vois, si on reprend l'exemple de Rémi et de Discovery Discipline, lui, il a fait le job après coup,
ouais,
d'expliquer justement que la méthode était adaptable, qu'il fallait, ouais, pas la prendre au premier degré. Enfin, il a fait ce job-là de prendre un peu le contre-pied. Et ça, typiquement, tu l'as dans la communauté produit française, mais tu l'as pas venant de la communauté produit américaine. Tu vois, les Américains, ils sont beaucoup plus... Enfin, c'est peut-être caricatural de ce que je dis, mais c'est plus basique, quoi. Tu vois, moi,
pragmatique, tu veux dire ?
Non, c'est pas plus... C'est plus limite, c'est plus... En fait, ils font de la com, en fait. Donc, en fait, ils sont peut-être plus pragmatiques au jour le jour, mais en fait, dans la manière dont ils vont passer les messages, c'est beaucoup plus dogmatique. Tu vois, moi, ce que je déteste, c'est les gens qui ont Marty Kagan comme prophète, quoi, tu vois. Enfin, il est prophète de rien du tout, Marty Kagan. Enfin, ça, c'est vraiment un truc aussi qui... Alors, je bascule sur un peu les sujets qui m'énervent, mais
j'aurais dû poser la question comme ça. Qu'est-ce qui t'énerve?
dans la communauté, enfin, pas dans la communauté, mais moi, si je regarde un peu tous les boss que j'ai pu avoir sur toutes ces années, à nombreuses reprises, on m'a dit, boss ou stakeholder, on m'a dit, mais pourquoi on fait pas comme Apple? Pourquoi on fait pas comme Google? Tu vois, récemment, sur des sujets plus e-commerce, on m'a dit, mais pourquoi on fait pas la homepage de Amazon et AliExpress, quoi? Bah, parce que juste, on n'est pas Amazon, on n'est pas AliExpress. Donc, déjà en positionnement de marque, en termes de proposition de valeur. Et puis, on n'a pas les mêmes équipes. Enfin, tu vois, moi, pendant des années, on m'a dit, mais pourquoi on ne fait pas comme Apple et Google? T'as pas la même R&D, t'as pas la même culture d'entreprise, t'as pas les mêmes dirigeants.
Puis user, peut-être aussi, non?
Ouais. Donc, à un moment donné, il faut juste remettre les choses un peu en perspective. Et toutes les méthodes qui ont fonctionné chez Facebook, chez Spotify, chez Netflix, j'ai beaucoup étudié aussi Netflix sur les sujets pricing et innovation. Ils ont fait tout ce qu'ils ont accompli, ils l'ont fait parce qu'ils étaient dans des contextes aussi différents d'une start-up French Tech française ou un grand groupe français, quoi.
Et ces méthodes ne fonctionnent pas toujours, actuellement dans les boîtes. Typiquement, le modèle Spotify, tout le monde en parle. Il n'est pas prouvé qu'aujourd'hui, c'est le modèle qui soit encore utilisé chez Spotify, quoi.
Exactement.
En plus.
Donc, il faut faire la part des choses entre la com et la théorie,
ouais, bien sûr.
Et puis la pratique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire tous ces bouquins, etc. Mais il faut juste... En fait, c'est plus une question de comment tu le vis toi-même. Il ne faut juste pas être déçu quand tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas vivre le produit tel que tu te l'étais imaginé, fantasmé, on va dire, de manière théorique, quoi.
Hyper clair. Écoute, merci beaucoup Stéphane pour tout ça. On en sait un petit peu plus sur ton parcours, sur tes opinions. Je propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt ?
Très bien.
C'est parti. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter Clé de Voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, on y va Stéphane pour cette deuxième partie de ton épisode. Quel sujet tu veux évoquer ?
Alors, un des sujets qui me semble intéressant par rapport à mon expérience, hein, ma modeste expérience, c'est le sujet de comment tu peux développer et scaler un produit multi-pays. À partir d'un produit, d'une plateforme centralisée, plutôt en France, puisque c'est les contextes que j'ai connus. Comment tu gères le fait que ce produit-là doit s'adapter et être déployé sur tout un tas de pays, que ce soit en Europe ou dans le monde entier.
Pourquoi est-ce que ça pose problème d'avoir un produit que tu dois développer dans plusieurs pays ?
En fait, si tu regardes, si je reprends l'exemple des GAFAM, t'as l'impression que c'est simple, parce que en fait, ces produits-là, ils ont été développés aux US et ils se sont imposés de manière mondiale. Donc, t'as l'impression que tu vas pouvoir faire de la même chose en appliquant potentiellement les mêmes recettes. Et puis, quand t'es confronté à la réalité, en fait, tu te rends compte que voilà, notamment en Europe, c'est pas du tout la même histoire pour plein de raisons qu'on va évoquer. Tu te trouves face à des difficultés, notamment des difficultés avec les équipes locales, parce qu'en général, bon, tu déploies pas un produit, on va dire, dans ta tour d'ivoire à partir de Paris. Ce qui est peut-être la différence d'ailleurs avec les produits comme les produits US. Hein. Souvent, eux, justement, ils ont que des bureaux commerciaux avec une gouvernance qui est hyper hyper claire et hyper centralisée dès le départ, alors que dans tout un tas de sociétés françaises, tu as une gouvernance qui est beaucoup plus répartie entre ce qui peut être décidé en France et ce qui peut être décidé dans les pays en Europe.
Et c'est ce que tu vis actuellement chez ADO, ce challenge ? Ou que tu as vu peut-être passer durant ces derniers mois ?
Alors c'est un de mes challenges principaux chez ADO, puisqu'en fait on est en train on construit une plateforme globale qui a vocation à être déployée dans toutes les business units d'ADO, qui est déjà déployée dans les 5 principales. C'est un processus qui a commencé il y a 3 ans, donc qui continue à se poursuivre, avec maintenant le fait d'aller adresser des business units qui sont plus petites, des business units dans lesquelles tu as des moyens de paiement différents, des business units dans lesquelles tu as des monnaies différentes. Donc ces problématiques-là, je suis au cœur de ces problématiques-là, ouais. Et ça me rappelle en fait mes expériences passées, puisque en fait, déjà à l'époque chez Mythique, on opérait tous les services de rencontre du groupe Match en Europe à partir de la plateforme européenne. Et c'était un contexte qui était simple dans la mesure où en fait le déploiement en Europe se faisait par acquisition externe. Donc, en fait, tu rachetais une société, tu faisais un gap analysis rapide, tu prenais les 2-3 fonctionnalités intéressantes ou clés, et puis ensuite tu migrais tout le monde sur ta plateforme, ça te prenait 8 mois, mais au bout de 8 mois, tu étais tranquille, le truc était intégré. Ensuite, j'ai eu ce type d'expérience chez Malte. Donc, quand je suis arrivé, le produit était lancé en France et en Espagne. Et puis, à l'époque, je l'ai lancé également en Allemagne. Et donc, ça, c'était de la croissance organique. Donc, en fait, ton produit n'existe pas. Tu lances et ta marque et ton produit dans un nouveau pays. Et donc, là, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'en fait, tout le travail, même si ton produit il est mature, tout le travail de construction de la marque, de la communauté, qui prend en fait un certain temps, tu peux pas raccourcir nécessairement ce temps-là. C'est pas parce que ton produit est bon et mature que tu peux gagner sur la partie acquisition et construction de ta marque.
Donc, hyper clair. Comment tu vas approcher ce sujet peut-être ? Est-ce que tu as pensé un peu des étapes qu'on peut exposer ici ?
Ouais, alors moi, je le verrais un peu par les phrases que tu entends quand tu es dans une équipe produit, que tu es CPO et que tu discutes avec les pays dans lesquels tu dois soit déployer ton produit, ta plateforme, soit qui vivent déjà avec ton produit et qui essayent de te demander des évolutions spécifiques.
C'est plutôt des phrases de quoi ? De contestation ?
Des phrases de contestation.
Des inquiétudes ouais. Ouais. Ok, hyper clair. C'est quoi les phrases que tu peux nous donner rapidement, résumées à la volée, puis on essaie de les approfondir une par une ?
Tout à fait. Alors la première, c'est en gros, tu peux pas comprendre. Ici, c'est vraiment spécifique. Ça fonctionne pas comme en France ou ça fonctionne pas comme dans tel autre pays. En fait, t'as pas compris. Moi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne réellement ici. Culturellement, c'est différent. Deuxième, c'est en fait, on n'est pas au courant de ce que vous faites. Donc, il y a un problème de communication. Donc, voilà, on ne peut pas anticiper. On ne peut pas réellement déployer ton produit. La troisième, c'est ton produit, on l'a déployé, mais en fait, chez nous, il ne fonctionne pas. En fait, ça fonctionne peut-être en France ou dans tel ou tel pays, mais chez nous, ça ne fonctionne pas. Donc c'est un peu le corollaire de on est différent, mais c'est une fois que le truc il est déjà lancé. Quoi. Et puis ensuite, le dernier, c'est cette espèce de distanciation où en gros, c'est vos produits globaux et nos équipes locales. Donc c'est, même si tu fais partie du même groupe ou des mêmes équipes, c'est nous et vous. Quoi.
Ok, hyper clair.
Alors si tu reprends la
première, ouais.
La première.
Tu peux pas comprendre du coup, hein, c'est ça.
Ouais,
donc tu t'adresses à un pays étranger, j'imagine, enfin un pays en tout cas qui est pas le même que le tien, vu la phrase. Et c'est cette réaction qui sort de la personne qui est située dans un pays étranger.
Exactement. C'est en fait c'est le fait que tu ne puisses pas comprendre les spécificités locales.
Mmh. Ok. Vraiment,
ça, moi, mon expérience, c'est que dans 90% des cas, il n'y a pas de spécificité locale. C'est un mirage. Donc, un, ça explique pourquoi aussi tu as les GAFAM qui arrivent à déployer le même service partout dans le monde, parce que globalement, notamment en Europe de l'Ouest, la culture, elle a été quand même nivelée, et d'un point de vue culturel, d'un point de vue aussi réglementaire, il y a un certain nombre de choses qui se sont synchronisées, ce qui fait qu'en fait, la plupart des différences ont été aplanies ou annulées. Pour moi, il reste vraiment, dans les sujets qui restent des sujets de spécificité, notamment en Europe, il en reste, on va dire, 4 ou 5. Tu as des choses sur le plan légal, donc même s'il y a eu beaucoup d'évolutions sur la partie RGPD, mais d'un point de vue légal, il peut rester des différences. Sur la partie fiscale, donc là, il reste énormément de différences sur la partie fiscale, y compris sur la partie identification des clients pro, voilà, un certain nombre de choses où tu dois mettre le numéro fiscal du pays pour pouvoir t'inscrire sur ton service. Il y a les moyens de paiement. Donc ça, c'est marrant parce que les moyens de paiement, tu pourrais te dire, bon, ben, la carte bancaire, c'est...
J'ai un exemple pour ça de filet qui met en tête si tu veux après.
Ouais.
Moyen de paiement, ouais.
Moyen de paiement, donc il y a des pays sur lesquels PayPal est le plus important. Il y a des moyens de paiement spécifiques en Pologne, en Allemagne, au multibanco au Portugal. Enfin voilà, avec des cinématiques de paiement réellement différentes. Hein. C'est pas juste je me connecte à un moyen de paiement classique, je m'authentifie. Donc ça reste un point hyper important. Et le dernier, tu as des différences en termes de business model. Donc moi, je l'ai connu chez Mythic. Tu avais des business models différents entre les pays du Nord et les pays du Sud.
Typiquement, tu as un exemple ?
Bah, typiquement, dans les pays du Nord, les femmes payent, comme les hommes. Dans les pays du Sud, en général, les femmes ne paient pas ou moins cher. Tu as ce type de
différence. C'est culturel, en fait. C'est une espèce de culture personnelle de rapport à la relation amoureuse, j'ai l'impression, de ce que tu dis dans le cas de Mythic, c'est ça ?
Je ne sais pas si c'est... Parce que tu vois, typiquement, sur la partie campagne de com, quand j'y étais, on a centralisé toute l'acquisition à Paris. Et toutes les campagnes de com qui étaient avant différentes pays par pays ont été centralisées. On a fait 3 ans de la campagne avec Buzzman Love Your Imperfection, qui était la même campagne qui était diffusée partout dans tous les pays. Et ça fonctionnait pareil.
Ah, intéressant. Okay.
Donc en fait, culturellement, le rapport au dating et la proposition de valeur de Mythic était la même. Par contre, effectivement, opérationnellement, en termes de monétisation, le business model était différent.
C'est incroyable ça. Hein, c'est vraiment incroyable.
Et ce qui est marrant, c'est que chez Betclic, tu avais aussi une différence entre les pays d'Europe du Nord qui jouaient pour gagner de l'argent, si je caricature, et les pays d'Europe du Sud qui jouaient notamment sur la partie paris sportif pour le fun, pour supporter leur équipe. Donc c'était et pour le coup, là, tu pouvais avoir le même business model, mais avec des intentions différentes en fonction des joueurs. Et c'était les mêmes différences entre pays. Tu avais toujours les pays d'Europe du Nord au sens Angleterre, pays nordique. Europe du Sud avec France, Italie, Espagne, et puis l'Allemagne qui était toujours un peu entre les deux.
J'ai un exemple pour toi sur la partie paiement que t'as évoqué, là, le critère que tu as évoqué juste avant, qui m'est venu directement quand tu l'as évoqué, c'est chez Itch. Donc Itch qui est pour info une plateforme un peu similaire, je vais aller vraiment très vite, à Uber, sauf que la cible n'est pas exactement la même. Je sais que Itch, qui est une boîte française, a voulu se lancer en Afrique. En France, tu payes en carte bancaire. Hein. En Afrique, il y a beaucoup de pays où tu payes par cash et pas autrement. C'est pas possible, en fait. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas de carte bancaire. Donc là, il y a quand même un usage du paiement qui est très différent. Il faut imaginer les contraintes que c'est de récupérer du cash quand tu es un chauffeur VS de la carte bancaire. Quoi. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est ce qui a pop directement dans ma tête.
Mais voilà, est-ce que, en fait, c'est un peu à la comment dire, à l'intersection de la partie business model et moyen de paiement. Je prends un autre exemple sur Care. On faisait partie du groupe Alciro, qui est un groupe européen. Et donc, en fait, structurellement, le système de santé est différent entre le système de santé anglais et le système de santé français. Et une des principales différences vient de qui paye, en fait. Donc, en France, on va dire que c'est l'État qui paye via le remboursement des consultations. En Angleterre, c'est les assureurs privés. Donc, en fait, souvent, en fait, tes différences, qui sont des différences vues comme, ou spécificités vues comme des spécificités culturelles, en fait, n'en sont pas. C'est très lié au business model et aux moyens de paiement. Qui va payer, combien tu es prêt à payer.
Et régulation, donc tu disais tout à l'heure. Okay. Et donc, sur ce premier point-là, tu ne peux pas comprendre. Toi, c'est ça que tu dis à tes équipes, en fait, quand tu as ce challenge de multi-pays, c'est de dire, écoute, désolé, c'est pas un argument que tu peux pas comprendre, je comprends. Oui, nos pays sont différents, mais dans les faits, hormis ces critères de paiement, de législation, etc., il n'y a pas de différence. Quoi.
Ça en fait, faut arriver à déminer cet argument, et une façon de déminer cet argument, c'est en regardant la data. Donc en fait, tu vas trouver des exemples dans lesquels la même feature, qui pourtant impacte l'expérience client, va produire exactement les mêmes résultats dans tous les pays.
Ok.
Là, on en a un exemple chez ADO. Il y a des évolutions qu'on a faites sur le moteur de recherche. Et sur la façon dont on affiche les résultats, ben en fait, on prend les mêmes incréments de la même manière dans tous les pays, alors que les propositions de valeur sont un petit peu, les offres, les niveaux de prix sont différents. Ça prouve bien que voilà, y a pas de spécificité culturelle. Et donc c'est d'ailleurs c'est pour ça que tu crées des plateformes. Si tu devais créer N produits pour N marché, il n'y a aucun intérêt à
voilà. Exactement. Ok. C'est quoi le point 2?
Donc le point 2, c'est souvent une objection sur le niveau de communication que tu peux avoir entre les équipes centrales et puis les équipes entre guillemets locales. Donc là. Ce qui est hyper important, c'est de gérer vraiment la communication avec les pays de manière spécifique. Je prends un exemple très concret. Quand tu publies une roadmap globale, il faut que tu fasses des versions de cette roadmap-là adaptées pays par pays. Qu'est-ce que tu vas activer réellement pays par pays ? Il faut que tu fasses l'effort de t'adapter à ton audience. Il ne faut pas que tu considères que tous les pays vont ouvrir ton doc de roadmap et vont aller trier ce qui les concerne, ce qui ne les concerne pas. Non, il faut vraiment que tu fasses une vue entre guillemets, filtrés
de
ta roadmap, trié pour eux. Pareil, ils ont fait des demandes spécifiques, tu y réponds, tu fais vraiment un doc, on va dire, de priorisation qui est adapté à leurs demandes. Tu ne considères pas que juste en envoyant l'info, ils vont l'intégrer. Tu fais des réunions spécifiques pour leur expliquer le rationnel, leur expliquer pourquoi certaines demandes ne sont pas prioritaires par rapport à d'autres demandes d'autres pays. Donc, c'est à toi de faire ce job-là. Donc, il y a un extra effort de communication à faire et de s'adapter à cette audience. Sinon, ça ne fonctionne pas.
Ok. Est-ce qu'il y a des rituels particuliers que tu mets en place où on en revient à la communication très classique de la roadmap qui sort un peu du sujet multi-pays tu vois, où on dit souvent que la roadmap, il faut continuer à la communiquer au sein de toute une boîte. Là, hormis ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'adapter et de filtrer ta version de roadmap pour l'adapter à la version locale, tu vois, d'un pays en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme rituels à mettre en place ?
Moi, j'ai toujours été sur des rythmes de définition de la roadmap qui étaient des rythmes à 3 mois. Ce qui me semble important, c'est de faire ce qu'on appelle un plan produit. Donc, j'appelle pas ça roadmap parce que c'est un plan produit à 18 mois. Donc, parler d'une roadmap à 18 mois, pour moi, ça n'a pas de sens parce que ce que tu fais dans 18 mois ne correspond pas à ce que tu avais dit au départ, quoi, 18 mois auparavant. Donc, l'importance de donner de la visibilité, parce qu'en fait, ces équipes locales, souvent, elles ont du déploiement à prévoir, de la formation. C'est elles qui vont gérer justement la communication et le déploiement local. Il faut qu'elles anticipent. Donc en fait, tu peux pas juste rester sur une logique de gestion de roadmap à 3 mois. Il faut donner de la visibilité. Donc ça, c'est sur le long terme. Et puis sur le court terme, il faut aussi donner de la visibilité tous les mois. Donc je pense qu'il faut se forcer faire un update de ta roadmap tous les
mensuel.
Mois, parce qu'en fait, il y a forcément un moment donné où ils sont pas forcément sur les mêmes calés sur les mêmes créneaux, les mêmes timings que toi. Et donc entre deux revues de la roadmap, il faut qu'ils aient la version à jour.
Sans compter, j'imagine, les congés qui ne sont pas les mêmes, etc., etc. Où je pense notamment aux US avec Thanksgiving, qui n'est pas exactement pareil que l'Europe qui prend beaucoup de vacances, plutôt au niveau de l'été, etc. Quoi, j'imagine.
Ouais, même entre les pays européens, tu as des différences sur les vacances d'été.
Ouais, hyper clair. Quel est le troisième point ?
Donc, le troisième point pour moi, c'est la question de la performance de ton produit ou de ta feature. Hein. Une fois que tu as passé la première objection qui était chez moi c'est différent et que donc tu vas déployer la même feature, le même produit dans tous les pays, on va t'expliquer que ça ne fonctionne pas dans un pays spécifique. Donc ça, il faut vraiment piloter la performance aussi de manière locale.
Une fois que tu as déployé, quoi.
Une fois que tu as déployé. Mmh. Et donc, quand je dis piloter la performance, ce n'est pas juste relever les compteurs. C'est s'assurer que, en termes de paramétrage, ils ont eu les bonnes infos, ils ont été formés. Donc souvent, tu fais de la formation initiale, mais tu ne formes pas les équipes au fil de l'eau. Faut s'assurer que l'appropriation du produit elle est complète. Il faut s'assurer qu'ils ont mis en place les process qui vont avec, parce que ton produit ne fonctionne jamais de manière autonome. Il faut s'assurer qu'il y a la bonne animation commerciale. Tiens, je prends un exemple concret. On a des OKR sur le nombre d'utilisateurs actifs sur les applications. Bon, bah, ça dépend de la qualité de ton appli, ça dépend de certaines features, de viralité, si tu crées des cartes de fidélité dans ton appli pour que les gens y reviennent régulièrement. Mais si ta business unit locale ne fait pas de campagne de communication pour dire on a lancé une nouvelle appli ou télécharger l'appli, ou si tu mets pas des affiches en magasin pour inciter les utilisateurs, les clients à télécharger ton appli, ben, il se passe rien. Mmh. Donc en fait, ça c'est un OKR qui est un OKR commun entre les équipes marketing locales et puis les équipes produits tech globales. Donc moi j'ai souvent cette objection de dire on peut pas accepter cet OKR parce que en fait ça dépend pas de nous, ça dépend aussi des équipes locales. Ben non, c'est ton job de t'assurer que les équipes locales elles vont bien mettre en place les actions de communication et que tu les aides pour ça, que tu leur donnes des éléments pour supporter ces actions de communication.
Ok, donc j'imagine que ce point est très lié au point numéro 2 qui est la roadmap, tu sais, qui est attitrée au pays en particulier.
Exactement. Pour qu'ils puissent déclencher des actions de communication, qu'ils puissent se former, etc., bah, faut qu'ils aient la visibilité. Donc, tous ces points-là, en fait, ils sont imbriqués les uns dans les autres.
Ok.
Et le dernier point, il est vraiment sur le fait de créer un mindset one team, on va dire. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle chez ADO. Et donc, je vois la différence entre les pays sur lesquels tu n'as pas d'équipe produit tech globale qui sont localisées dans ce pays. Et puis, on a des pays dans lesquels on a des équipes produit tech donc qui sont rattachées à notre plateforme. Hein. Donc, on gère les budgets, on fait le management des équipes. Mais concrètement, ces équipes sont localisées. Donc, on en a en Espagne, on en a en Italie. Et ça change complètement le mindset. Tu passes d'un mindset de eux et nous à un mindset de on fait partie de la même plateforme, de la même équipe produit tech, de la même aventure. Donc ça, c'est un élément hyper important. C'est arriver à créer, on va dire, pas uniquement des relais locaux, mais vraiment des équipes locales. Et ça c'est hyper important. Tu as l'impression que ça va te éloigner les équipes, ça va t'enlever du contrôle et du pouvoir. Mais en fait, ce que tu gagnes en appropriation a beaucoup plus de valeur que ce que tu vas perdre en proximité.
Tu as des ambassadeurs locaux, en fait, en fonction des pays. Si, en gros, ce que tu me dis, si je comprends bien ton message, c'est que des pays où il n'y a pas d'équipe tech et produits qui sont basés localement là-bas, tu perds un petit peu ce poids, en fait, puisque tu n'as personne qui est vraiment là, qui se sent vraiment inclus dans tout ce qui se passe au produit dans le pays où c'est piloté principalement. Quoi, c'est
exactement. Okay. Avoir juste des ambassadeurs et des relais, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que tu aies des équipes opérationnelles qui aident à construire le produit ou un produit, de manière à ce que les gens se sentent vraiment faisant partie de la même équipe. Quoi.
D'accord, j'ai utilisé ambassadeur qui n'est pas le bon mot. Ce que tu veux vraiment dire, c'est qu'il ne faut plus penser pays, en fait. Il faut que la personne qui soit là-bas fasse partie intégrante du produit, mais qu'elle soit bien là-bas. Quoi. Je ne sais pas comment le dire, j'arrive pas à le dire vraiment, mais j'espère que les gens comprennent, en tout cas en écoutant le podcast. Il faut vraiment que ton équipe, elle s'étende sur les pays dans lesquels t'es, quoi.
Ouais, elle soit distribuée. Donc, okay. ça, des fois, ça s'appelle des centres de compétences, des fois, ça s'appelle des hubs. Tu vois, des fois, c'est juste la même équipe qui est localisée à différents endroits. Donc c'est hyper important.
Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça, Stéphane. C'était super cool. J'ai adoré, moi, cette partie. Je te propose qu'on passe à la partie 3 de l'épisode. Est-ce que t'es prêt?
Super.
Let's go. Allez, let's go pour cette troisième partie, Stéphane. Quel sujet tu veux évoquer ici?
Un de mes sujets de prédilection, c'est le sujet du pricing et du pricing des services digitaux. Je pense que c'est un sujet essentiel quand tu fais du produit. Et c'est un sujet qui est sous-coté. Donc moi, plusieurs fois dans ma carrière, j'ai eu des discours un peu lunaires avec des product managers et puis des équipes tech qui considéraient que le Graal, c'était de travailler sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et que travailler sur des sujets de pricing, amélioration de la marge, paiement, c'était le mal absolu.
Sujet business, quoi.
Ouais. Ça vient un peu de, je sais pas si tu te souviens un peu de ce mantra de Google qui disait on se concentre sur l'expérience utilisateur et puis le business model, on verra plus tard.
Ça suivra, quoi.
Voilà. Mais ça, c'était Google. Tu vois, ils peuvent se permettre de perdre 1 ou 2 milliards dans différentes initiatives. Tu regardes le compte d'exploitation d'Alphabet, tu vois, c'est pareil. Pour le coup, là, c'est lunaire. Mais dans la vraie vie, tu peux pas faire abstraction de la performance économique de ton produit, la manière dont tu contribues aux revenus de ta boîte. Soit ton produit il contribue réellement à la valeur et c'est un produit core, soit ton produit ne contribue pas et c'est juste un hobby, quoi. En fait, tu bosses juste sur un truc qui n'a aucune importance et il faut te poser les bonnes questions, quoi. Mmh. Donc il y a des boîtes qui peuvent se permettre des fois de faire ça, mais bon, en général, ça ne dure pas très longtemps.
T'es clair.
Donc ça, c'est vraiment toujours un sujet sur lequel j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'intérêt des équipes produits.
Quel angle tu veux prendre pour attaquer ce sujet, qui est un sujet qui est technique en plus ?
Alors, juste pour continuer sur la partie, donc ça c'est pourquoi ce sujet m'intéresse, pourquoi c'est important d'en parler. Premièrement, il y a une question un peu conjoncturelle, c'est-à-dire que, comme tu l'as évoqué d'ailleurs dans un épisode récent avec Fabrice Demazeri, sur le ROI du produit, en fait, avec la conjoncture actuelle, ça devient essentiel de travailler la monétisation de ton produit. Pas mal de startups sont passées d'une logique de on finance la croissance à on doit faire de la croissance rentable ou juste de la rentabilité tout court.
Très vite, quoi.
Donc c'est un sujet d'actualité. C'est-à-dire que, en fait, concrètement, il y a plein de product managers qui ont vu leur roadmap chambouler. On leur a dit, bon voilà, t'arrêtes toutes les innovations et tu te concentres sur la monétisation et la rentabilité de ton produit. Et puis après, tu as un sujet de fond intellectuel, d'intérêt intellectuel. Ce sont des sujets qui sont vraiment challenging, au sens où tu dois t'adapter à des contraintes légales. C'est un sujet technique parce que, effectivement, tu as des sujets de moyens de paiement. Tu as des sujets de UX sur comment tu intègres tes paywalls, tes pages de paiement. Tu as des sujets d'expérience globale, tu as des sujets de rétention, tu as des sujets de modélisation d'offres. En fait, c'est un domaine qui intellectuellement est hyper, hyper riche. Et c'est un domaine sur lequel tu n'as pas des choix qui sont des choix binaires. Je prends un exemple concret. Si tu regardes par exemple la conversion le revenu, la marge que tu fais. Si tu augmentes tes prix sans rien faire d'autre, tu vas baisser ta conversion. Mmh. Donc, il y a des moments où ça va être globalement positif, puis il y a des moments où ça va être globalement négatif. Si tu rajoutes des features sans bouger le prix, tu augmentes la valeur, donc tu vas potentiellement augmenter ta conversion, mais tu vas diminuer ta marge, parce que tu as donné plus.
Pour faire l'investissement.
Voilà. Et donc en fait, tu as l'impression que dès que tu joues sur un levier, en fait, tu perds sur un autre...
Tout bouge, quoi.
Voilà. Et en fait, il y a des exemples où tu peux réellement, moi je l'ai connu chez Mythic, tu peux réellement gagner sur tous les tableaux. Chez Mythic, on a mené des projets où on a réussi à augmenter la conversion, augmenter le revenu moyen par utilisateur, augmenter la marge, tout ça en même temps. Donc, arriver à ce type de résultat, intellectuellement, c'est hyper, hyper satisfaisant et tu es obligé de mettre en œuvre des compétences, encore une fois, data-centric, UX, technique, d'alignement avec la value proposition de la boîte, d'alignement avec les campagnes de com. Donc c'est ça qui je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup plus intéressant que juste se dire on va fluidifier le parcours d'inscription qui est un truc assez binaire, quoi. Une fois que tu as trouvé les pain points et les endroits où il y a de la friction, tu sais que tu vas améliorer ta conversion sur l'inscription de X points. Mais c'est simple, on va dire, c'est des problématiques simples. Donc je pense que les product managers devraient justement aller rechercher des problématiques qui, sont plus compliquées et sur lesquelles, en plus, ils auront une contribution qui sera plus forte en termes de création de valeur, ce qui leur permettra d'être davantage reconnus dans la boîte.
Eh bien écoute, let's go, tu nous as assez teasé, je pense, sur le sujet. On a compris son importance. Comment tu veux l'adresser ?
Alors moi, je voudrais concentrer vraiment sur la partie tester, quand tu testes le pricing. Donc tu veux faire évoluer le pricing de ton service, comment tu vas le tester ? J'ai eu à mener ce projet-là chez Care il y a quelques mois et je me suis rendu compte que les équipes que j'avais en fait ne l'avaient jamais fait. Donc, ils ne savaient pas comment faire, les équipes data et les équipes produits ne savaient pas comment tester un nouveau modèle de pricing sur un service.
Okay.
Donc moi, c'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps à justement reformaliser quel était un peu le process, on va dire, et la méthode pour faire ce type de test. Donc là, en quelques minutes, pour résumer un peu les différentes étapes, tu as le premier point qui est assez basique, qui est de faire un questionnaire utilisateur. Parce qu'en fait, tu ne te lances pas directement dans un A/B test avec deux ou trois niveaux de prix. Hein. D'abord, il faut essayer de cadrer un peu le sujet. Et donc, au-delà de la compréhension de ton business model, ta structure de coûts, ta value proposition, il faut d'abord segmenter les utilisateurs. Mmh. En fait, une partie de la réponse vient du fait d'arriver à différencier tes personas et ton audience, et notamment de le faire sur deux axes. Un axe qui est la capacité à payer. Donc en fait, tu as une relation directe entre ta conversion, le niveau de pricing que tu vas pouvoir appliquer et les moyens de tes utilisateurs. Hein. Quand j'étais dans le dating, tu avais une courbe de la conversion en fonction de l'âge. Et donc c'était à zéro en dessous de 18 ans. Ça augmentait entre 18 ans et 27 ans. Et puis ensuite, à partir de 27 ans, c'était en plateau, parce que là, les gens, ils avaient un job, et puis ils étaient prêts à payer, quoi. Et c'était vraiment mathématique, hein. Il y avait des bouquins sur le sujet aux États-Unis, de la part du fondateur d'OkCupid, qui était un data analyst.
Aussi d'une appli de dating, mémoire, hein, OkCupid, non ?
Pardon ?
OkCupid, c'est pas aussi une appli de dating ?
Oui, c'est une appli de dating qui faisait partie du même groupe. Et eux, un des fondateurs avait publié un bouquin avec toutes les datas et tous les insights.
Incroyable.
Qui est un bouquin vraiment intéressant. Et donc voilà, donc typiquement, l'âge, en termes d'infos socio-démo, te donne une indication hyper claire sur la capacité des gens à payer. T'en as plein d'autres.
Juste une question, Stéphane, parce que tu es rentré très vite dans le sujet. Est-ce que ce que tu es en train de dire là est valable aussi bien pour des modèles B2C que du B2B, selon toi, en termes de strat, de pricing?
Oui, sur cette partie-là, sur cet aspect-là.
Tu penses que c'est valable sur les deux?
Oui, le fait d'identifier des personas, c'est valable sur les deux.
Okay.
Après, ta capacité à payer, elle est différente, puisque là, c'est la
bien
société
sûr.
Qui... Mais...
En tout cas, la strat là, que tu déroules pour bosser sur ce test de pricing, tu penses que c'est aussi bien valable sur du B2B que du B2C? Ouais, dis-moi.
Pas sur toutes les étapes, parce qu'en fait, en B2B, tu vas avoir beaucoup moins de volume. Donc,
ouais.
En fait, toute la partie test, ensuite, A/B test, tu ne pourras pas la faire sur le B2B. Donc,
hyper clair.
Là, je pense que c'est vraiment, à la réflexion, ce que je te dis, c'est vraiment centré sur le B2C.
B2C, donc inspiration à prendre pour les gens qui seraient en train d'écouter le podcast et qui viennent du B2B. Inspiration à prendre et peut-être des bonnes idées. Mais attention, le mode opératoire, compte tenu du volume de gens qu'on fait rentrer dans le process, est un peu différent, quoi.
Ouais, à différents niveaux, ouais, je pense que c'est... Mais moi, mon expérience, elle est vraiment B2C sur
B2C,
la partie...
Ouais. Très clair, hyper clair. Ok, donc une fois qu'on a pris en compte la capacité à payer.
Capacité à payer, et l'autre critère, pour juste en prendre deux, c'est ce qu'on appelle en anglais l'intent to pay, c'est ton intention. Et en fait, arriver à comprendre le niveau d'intention de l'utilisateur, c'est clé. Je reprends l'exemple de Mythic, parce que c'est mon exemple le plus...
On peut suivre celui-là, si tu veux. Ça va parler à tout le monde.
Voilà, qui est le plus, pertinent, on va dire. À l'époque, on a inventé une stratégie de pricing qu'on appelait le pricing adaptif, qui permettait en fait d'adapter le prix. Alors, sur des critères objectifs comme l'âge, le sexe, etc. Mais aussi sur le canal d'acquisition. Donc en fait, quand tu venais de Facebook, tu avais cliqué juste sur une pub, tu avais une intention de convertir qui était moins forte, donc on te présentait des prix qui étaient plus bas, et tu avais des discounts plus rapidement. En tout cas, ça c'était à l'époque, hein, ça a changé, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et quand tu avais vu une pub à la télé et que tu venais en direct, en tapant Mythic dans ton moteur de recherche, ou en tapant directement Mythic l'accès direct au site, tu avais une intention d'acheter et convertir qui était plus forte. Donc là, tu avais des prix plus élevés et des discounts moins rapides.
Okay.
Et donc, on adaptait le prix en fonction du canal d'acquisition qui traduisait, qui était un proxy de ton intention de payer. Et en faisant ça, tu gagnes sur les deux tableaux. C'est-à-dire que les gens qui sont prêts à payer, tu leur mets des prix plus élevés. Et les gens qui ne sont pas prêts à payer, tu mets des prix moins élevés et donc tu augmentes la conversion. Donc
c'est là qu'on commence à avoir un lien quand tu disais tout à l'heure qu'on peut gagner sur tous les tableaux.
Exactement.
Okay.
Et donc ça marchait tellement bien que les gens ne le savent pas, mais quelques années plus tard, quand Tinder est passé payant, parce que Tinder faisait partie du même groupe, et on les aidait aussi.
Le Match Group, du coup.
Exactement. Tinder a adopté ce pricing adaptif.
Okay.
Et a réutilisé une technique qui avait été inventée entre guillemets en France, et tu sais que les Américains n'aiment pas forcément reconnaître qu'ils sont allés chercher des idées de ce type-là en France. Mais là, sur le pricing, pour le coup, c'était une vraie innovation des équipes mythiques.
On a remonté face à Arcos et Apple pour une fois, ça y est.
Ouais, et pour faire le lien avec les télécoms, c'est que l'équipe qui s'occupait du pricing de Mythique, hein, c'était Martin Bertoneau, qui est devenu CPO du Bon Coin et qui est CPO à Devinta, et qui venait de chez Bouygues, qui venait de chez SFR, et puis Romaïssa Cherbal, qui est aussi directrice produit chez Le Bon Coin, qui venait aussi de SFR. Et donc on avait tous été biberonnés, on va dire, par toutes les stratégies pricing opérateurs. Donc, depuis, on est passé sur des modèles illimités à l'abonnement très simples, mais dans les années 2000, il y avait un foisonnement de modèles tarifaires chez les opérateurs. Et donc nous, on a appris aussi chez les opérateurs mobiles.
Super intéressant. Je ne connaissais pas cette anecdote. Super. Très bien. Alors donc, après, l'intention de payer.
Ensuite, il y a la question clé de comment tu testes la sensibilité au prix,
ouais.
et comment tu prépares, on va dire, l'AB test que tu vas faire après. C'est ça l'objectif de ton questionnaire. Hein, le vrai objectif concret, c'est de se dire quels sont les prix que je vais tester. Et pas partir juste au hasard.
Tout ça, c'est dans le questionnaire, hein, pour resituer,
ouais,
quand même.
On est toujours dans le questionnaire.
On est toujours en train de créer le questionnaire et d'aménager des questions pour tester toutes les variables que Stéphane vient d'évoquer.
Exactement. Et donc, pour savoir quel est le prix optimal, tu ne peux pas uniquement poser la question en déclaratif, quel prix êtes-vous prêt à payer ? Et donc, pour ça, tu as une technique qui est à la fois simple et qu'il faut connaître, c'est que tu poses les questions de manière un peu différente. Tu commences par demander quel est le prix qui te ferait renoncer à accéder au service. Mmh. Donc ça va te permettre de donner un peu ta barrière haute. Ensuite, tu poses la question de quel est le prix qui te ferait hésiter. Et puis la dernière question, c'est quel est le prix idéal pour toi, pour ce service. Donc le prix qui te ferait renoncer, c'est vraiment ta barrière haute. Et donc ça sera le prix le plus élevé que tu vas mettre dans ton A/B test. Le prix qui te fait hésiter, c'est le prix milieu. Et le prix le plus bas, c'est pas le prix idéal, c'est la moyenne entre le prix idéal et le prix qui te fait hésiter.
Okay.
Donc tu corriges le côté déclaratif où les gens vont sous-estimer le prix qu'ils sont prêts à payer, et tu fais la moyenne.
Okay.
Et donc en faisant ça, avec ces trois questions, tu as trois points qui te donnent les trois prix à tester dans ton A/B test.
Dans une campagne d'A/B test ensuite.
Voilà. Okay. Sachant que tout ça, tu le corriges en fonction de tes personas utilisateurs. Si tu ne peux pas identifier tes personas sur ton produit, tu es obligé de faire une moyenne un peu de tout ça, quoi. Et donc, toujours dans cette catégorie du questionnaire utilisateur, tu as une dernière type de question qui est importante, c'est le naming de ton offre et le storytelling. Donc, ce que j'appelle le storytelling, c'est vraiment expliquer pourquoi le prix est à ce niveau, qu'est-ce que tu mets derrière. Donc, typiquement, nous, quand on a fait ce projet chez Care, on a introduit des frais de service. Et donc, on a testé différents noms, frais de service, frais de fonctionnement, tout un tas d'options. Et puis ensuite, on a expliqué qu'est-ce qu'il y avait derrière ces frais de service. Et donc, on avait testé différentes visualisations où tu expliquais que tu payais le service client, les équipes produits et tech, des frais bancaires. Et donc, on a testé différentes décompositions de ce prix qui racontent toute une histoire différente. Et on a choisi la manière de le présenter qui correspondait le mieux aux attentes utilisateurs.
Toujours dans le questionnaire, ça, hein, tu le fais.
Voilà.
Okay.
Une fois que tu as fini ça, tu sais un peu quelle peut être la UX que tu vas tester, le naming, le storytelling, les trois niveaux de prix. Et donc, tu lances un A/B test. Alors, en général, tu as trois prix. On appelle ça un test de prix multivarié. Et ce qui est toujours hyper important, c'est de garder une cohorte à zéro. Donc en fait, tu gardes une cohorte de référence. Donc ça, c'est le premier point. Donc tu testes, t'as quatre populations différentes. Et puis, ce qui est important, c'est d'essayer d'éviter tous les biais. Donc en général, tu vas faire ce test uniquement sur les nouveaux utilisateurs. Les anciens utilisateurs qui ont été exposés soit à l'ancien pricing, soit à pas de pricing du tout, eux, ils sont biaisés. Donc en fait, il faut bien faire attention quand tu fais ce test-là, de le tester uniquement sur les nouveaux pour débiaiser. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est de travailler tes tactiques de monétisation. Ce que j'appelle les tactiques de monétisation, c'est deux choses. C'est un, à quel moment tu déclenches la demande de paiement, le paywall, comme on dit en anglais. Est-ce que tu déclenches au bout d'une certaine période? Est-ce que tu déclenches sur certaines actions? Donc ça dépend en général de la manière dont tu as structuré ton offre. Est-ce que tu fais du freemium ou pas? Est-ce que tu fais du trial?
Du reverse freemium.
Voilà. Tu as tout un tas de techniques. Donc ça, c'est vraiment la partie trigger. Et puis après, il y a la partie UX. Donc voilà, comment tu présentes une page qui demande, qui propose différentes offres. Et donc là, typiquement, il y a plein de littérature sur le sujet. Il y a même des sites qui présentent plein d'exemples de red card, comme on dit, de pages de paiement pour avoir des inspirations.
T'en as en tête qu'on pourra joindre peut-être à la newsletter du podcast?
Ouais, tout à fait. Ouais.
On joindra ça directement.
Et puis il y a des bonnes pratiques, hein. Donc, typiquement, je ne l'ai pas dit, mais sur la structure des offres, il faut toujours avoir trois offres, plus éventuellement une trial, hein, pour justement permettre à ceux qui ont peur de s'engager de tester, pour augmenter la conversion. En général, tu fais trois offres, et puis bien sûr, c'est l'offre du milieu qui va être la plus souscrite, et c'est en général sur cette offre-là que tu fais le plus de marge, et donc c'est là où tu dois cibler le mieux ton gain de marge, on va dire. Et les autres offres étant là pour forcer les gens à se mettre sur l'offre du milieu. C'est la fameuse
c'est Starbucks, non
tactique du vin aussi au restaurant.
Des vins,
des vins très chers, des vins très peu chers. Et puis comme tu veux pas faire le radin, tu prends les vins du milieu, quoi.
Ouais, bon, c'est le Starbucks. Pourquoi? Parce que on a souvent les trois formats: tall, je connais plus, grande, je sais plus exactement quelle taille, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne.
Voilà, donc ça fonctionne sur tout un tas de
sur du soft.
C'est du nudge classique, quoi. Ensuite, il y a un dernier point qui est hyper important, c'est la définition du plan de lancement. Donc en fait, quand tu vas introduire un nouveau pricing, tu ne peux pas l'introduire de manière brutale. Donc en général, il y a quelque chose qui est assez utile, qu'on appelle le Godfathering. C'est-à-dire en gros, tu annonces à tes anciens utilisateurs que le prix va changer, mais que pour le récompenser de leur fidélité ou pour tout un tas de raisons, eux, ils vont encore bénéficier de l'ancien prix pendant 6 mois, et que tu leur appliqueras les nouvelles conditions que plus tard. Et donc, en faisant ça, tu reconnais la valeur d'être un client existant, tu les fidélises, et en général, le gain par rapport à la perte potentielle de chiffre d'affaires, il est largement positif.
La transition est plus fluide et mieux adoptée, en tout cas mieux accueillie par les utilisateurs.
Exactement. Plus tard. Ça c'est un exemple sur les utilisateurs existants, mais de toute façon, ton plan de déploiement, y compris sur les nouveaux, doit vraiment être réfléchi. Tu dois vraiment travailler la communication sur différents canaux. Pas partir du principe, parce que tu as envoyé un mail pour dire que tu as de nouvelles conditions et de nouveaux pricing, que les gens l'ont vu et l'ont adopté.
Et anticiper un churn, j'imagine, le cas échéant, si tu es sur en plus un marché où il y a beaucoup, beaucoup de garde des prix, j'imagine, non?
Ouais, ou des discounts, tu vois, les gens qui vont appeler le service client pour se plaindre ou faire part de leur incompréhension. Donc tu dois prévoir aussi la politique commerciale associée.
La suite, ouais.
Donc voilà, c'est pas uniquement, encore une fois, c'est pas uniquement je change le prix et puis ensuite on voit ce qui se passe, quoi. Et le dernier point qui est important aussi à prévoir dès le départ, c'est l'analyse post-lancement. C'est-à-dire que tu vas avoir des effets directs, donc ta LTV, ton revenu, ta marge, ton taux de conversion. Et puis tu as aussi des effets indirects. Donc typiquement, si je reprends l'exemple de Care, jusqu'à maintenant, avant qu'on introduise un nouveau pricing, on avait des no-shows, c'est-à-dire des gens qui en fait bookaient des créneaux avec des médecins et qui ne venaient pas. Donc le no-show, ça existe aussi pour la fourchette. J'imagine que Fabrice aurait pu t'en parler. Donc sur plein de business, il y a des no-shows. En fait, en introduisant des frais de service et donc en faisant payer des frais supplémentaires, on a énormément baissé le taux de no-show, ce qui a augmenté la satisfaction des médecins. Les médecins étaient payés quand les patients ne venaient pas. Donc du coup, comme il y a moins de patients qui ne viennent pas, il y a moins de manque à gagner où tu payes les médecins pour rien. Et donc tu as un double effet vertueux et en récupération de revenus directs. Et en récupération de revenus indirects.
Ok, d'où le fait encore ici que tu peux gagner sur tous les tableaux si tu te prépares bien cette stratégie.
Exactement.
Ok.
Et donc il faut dès le départ, on va dire penser à mesurer ces effets collatéraux. Donc toi, nous typiquement avec Liquid Data, on avait bien prévu tous les dashboards pour pouvoir suivre post-lancement, pas uniquement le revenu direct généré par le projet, mais aussi tout l'impact sur l'écosystème.
Canon, écoute, merci beaucoup Stéphane pour cette partie super dense. Il y a plein de trucs là que j'ai appris en live. J'espère que les gens vont pouvoir se poser un petit peu, appuyer sur pause, replay pour noter. Mais merci beaucoup. Il y a vraiment plein de trucs techniques que j'ai pas forcément entendu j'ai pas du tout entendu sur le podcast auparavant. Donc trop cool. Je te propose qu'on passe à la dernière partie du podcast qui s'appelle les questions flash. Principe simple, je te pose 4 questions, tu me réponds vraiment très rapidement. Ça te va?
Ça marche.
Allez, let's go. Quel est ton produit préféré?
Alors mon produit préféré, c'est une station d'observation, un télescope d'une marque française qui s'appelle Vaonis et une application associée qui est un des seuls télescopes au monde, et c'est français, qui permet d'observer directement les étoiles avec une appli. Donc, en fait, tu ne vois pas à travers le télescope, oh, wow. Tu ne vois que sur l'appli. Et c'est vraiment plug and play, donc c'est ça que je trouve magique. C'est pas un truc fait pour les experts. Tu sélectionnes directement l'objet que tu veux voir, la lunette se cale directement sur le bon objet et tu vois le résultat sur ton smartphone.
C'est le Apple des lunettes solaires et tu avais le Arcos si tu avais la version un peu compliquée à utiliser, quoi.
Exactement. Et là, en quelques minutes, quand t'es néophyte, tu peux faire des observations géniales. Hein. J'en ai posté quelques-unes sur mon compte Twitter qui sont vraiment incroyables, alors qu'en fait, j'y connais rien.
Trop sympa. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien ?
Moi, mon principal driver, c'est vraiment de multiplier les sources d'infos, c'est d'être toujours hyper curieux de tout, et surtout d'écrire, donc de formaliser à un moment donné. C'est le meilleur moyen pour arriver à progresser. C'est aussi d'essayer d'écrire des petits articles, même si tu ne les publies pas, même si tu n'as pas l'ambition ou le courage, on va dire, de les publier. Mais juste pour toi, essayer de commencer à justement écrire et formaliser toutes les idées qui te passent par la tête et ce que tu as découvert dans toutes tes lectures.
Quel conseil tu donnerais à un product manager en début de carrière ?
Alors, c'est un conseil qui, pour moi, est valable aussi à toutes les étapes de ta carrière. C'est de se trouver un side project que tu peux développer, même si c'est une manière, même si c'est pas pour en faire une vraie start-up et quitter ton job. Mais c'est pour moi le meilleur moyen de mettre en œuvre réellement toutes tes compétences produits. Et te forcer justement à te mettre dans la peau d'un mini CEO et de travailler sur le pricing, la communication, la conception technique. Donc pour moi, c'est ça la clé, on va dire, du développement personnel.
Trop bien. Et pour finir, quelle personne t'inspire le plus ?
Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très connu, c'est Henri Laborie, qui a écrit différents bouquins, qui était spécialisé dans les neurosciences, et qui a écrit notamment deux bouquins qui sont mes préférés, La Nouvelle Grille et Éloge de la Fuite, qui sont vraiment une grille de lecture sur comment fonctionnent les gens et le monde. Et moi, ça m'a permis vraiment de comprendre au quotidien pourquoi les gens réagissaient d'une manière positive ou négative. Donc ça m'a beaucoup aidé dans la compréhension des gens qui m'entourent.
J'en ai lu un des deux et je conseille, c'est vraiment intéressant. Pas facile à lire parfois, mais intéressant. Merci beaucoup Stéphane d'être venu sur Clé de Voûte. C'était vraiment super de t'avoir, même si on a mis du temps à le faire. Franchement, trop cool de l'avoir fait avec toi. Merci encore d'être venu.
Merci beaucoup pour ton invitation.
Avec plaisir, à bientôt, salut.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
I have everything here.
Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
I'm so happy.